Vous écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 4 avril 2009. Nos programmes pour cet après-midi, à 13h, du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie. À 15h, du reggae avec Zarma Farai et peut-être Made in Trans. Et à 17h, FMR cède l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici le dessin animé que vous attendez tous.
Précédemment, dans le supplément week-end...
20 ans, je vais te dire un truc, c'est l'âge de ménageuse. Ménageuse, moi, je les fous dans un bassin, puis je les fais bosser toute la journée. Alors que les guignols, si tu veux, ils ont le plaisir de se renouveler, quoi. Ceci dit, moi, j'avais une naseuse qui se renouvelait assez au niveau des mecs.
Radio FMR présente... Le supplément week-end. Le magazine des cultures geeks avec du sport, Ultimatum, Daspreech et la participation exceptionnelle de JB.
Je suis désolé, j'ai pas eu le temps de changer le titrage puisque JB n'est pas là cette semaine. Elle a dit un quoi manga, en tant que lecteur de Télérama, je me barre.
Oui, mais nous avons à la place notre spécialiste en Highlander qui mais pour
Manu,
la...
Manu, ouais. Très très grand spécialiste Highlander et de la franchise, et ça fait plaisir de te revoir, même si aujourd'hui tu vas parler d'une toute autre franchise qui, elle, n'a pas réussi à pondre de bouse à ce jour.
Oui, oui, c'est vrai qu'elle s'en est plutôt bien sortie, même mais bon, si, on verra ça tout à l'heure.
Même s'il y a eu des films qui sont sortis, mais pas en salle, qui eux ont pas franchement fait, je vais dire, l'unanimité auprès des fans, et ça, on en reparlera beaucoup plus tard. Ceci dit, eh ben, y a
Bonjour.
Du sport aussi qui est là. Bonjour, Dus.
Bonjour.
Toi, les mangas, qu'est-ce que tu regardes d'habitude?
Comme manga?
Ouais.
Oh, ben, je sais pas trop.
Non, pas avec les gosses, toi.
Ça peut être dessin animé ou bande dessinée.
Je sais pas. Ce que tu me passes, quoi, en fait.
D'accord, c'est sympa, merci. Je rappelle qu'avec la loi qui vient de passer, là, normalement, on n'a plus trop le droit
de,
même de se prêter entre nous.
Bon,
ah oui, c'est débile, c'est comme ça. Bonjour à tous, cela fait un peu plus de 10 ans maintenant que le premier week-end d'avril, et ben... Je traite principalement de l'actualité bande dessinée et animation du Japon et d'Asie. C'est en fait à la fois une espèce de tradition et qui rentrait dans le supplément week-end, et aussi une espèce de clin d'œil à une saison très particulière sur l'archipel nippon, le printemps. C'est à la fois le moment de la rentrée scolaire et de la rentrée éditoriale, de la rentrée télévisuelle, mais c'est aussi le moment où tous les cerisiers se mettent en fleurs et les familles, groupes de collègues en profitent pour faire des pique-niques dans les jardins publics. Tandis qu'éclosent les nouveautés au Japon, comme par exemple la nouvelle série Dragon Ball Kai, ici, dans notre émission, on fait une sorte de bilan annuel, de programme à part, pour découvrir multiples aspects de la bande dessinée d'Asie, même si on en parle tout au long de l'année. On ne fait pas une exception pour le uniquement parce qu'il faut en parler une fois dans l'année. Non, non, on fait une émission à part parce que c'est vraiment important qu'on le fasse. Donc voilà, nous avions interviewé ainsi Keiko Ichiguchi en 2007, qui est une dessinatrice qui vient en Italie. Et nous avions reçu sur ce plateau en 2006 Frédéric Bollet et Aurélia Horita, deux dessinateurs français qui vivent au Japon et qui à l'époque vivaient une fantastique histoire d'amour au Japon, principalement. Hélas pour Aurélia Horita, cette dernière n'a d'ailleurs plus le droit de résider sur l'archipel autrement qu'en touriste. Elle a raconté justement dans le dernier volet qui est sorti aux Impressions Nouvelles.
Tout à l'heure, je n'irai pas Okinawa.
Voilà. Tout à l'heure, je vais vous parler aussi de la dernière bande dessinée de Tezuka, Gringo, qui en fait met en abîme la manière dont se comportent les Japonais à l'étranger et comment les étrangers sont perçus et reçus au Japon. Et dans l'immédiat, je vais vous présenter l'un des rares dessinateurs occidentaux qui ont réussi à entrer et à se faire un nom dans la très fermée industrie de l'animation japonaise. Et pour la spéciale de cette année, nous allons parler de trois séries animées spécialement geek.
Mmh.
vais vous présenter TerraTac. TerraTac, c'est un designer londonien qui a monté en 2002 sa boutique de vêtements, principalement des t-shirts, basée sur ses graphismes. Il travaille aussi sur la communication graphique de nombreux artistes et de nombreuses entreprises. Parmi les artistes, il y a Aphex Twin, il y a Warp Records, Harvey Nichols. Il travaille aussi, par exemple, pour le studio Gonzo, qui est créateur du projet Afro Samurai avec Samuel L. Jackson. Urbis Gallery, Wagamama, la branche PlayStation de Sony pour l'Europe, Manga Entertainment et Habitat. À voir son travail, on devine aisément les relations avec le graphe et le Japon, le futurisme hardcore et l'hypersymbolisme, la vaille d'Okusai et les travaux des designers républiques. Si TerraTag était un nom japonais, il s'écrirait en 4 kanji. TerraTag. Parmi les significations possibles de ce groupe de kanji, celui qu'a choisi le designer signifie « briller même pour paraître stupide ». En chinois, ça se traduit différemment. Ça deviendrait « il est idiot d'attendre », soit la traduction de la phrase latine « carpe diem », « vis l'instant présent ». TerraTag, d'ailleurs, dit sur son site qu'il est très heureux de cet hasard. En 2002, il est appelé par le studio de production Higé en tant que collaborateur externe sur une série adaptée de la bande dessinée Ghost in the Shell de Masamune Shiro, un auteur qu'il apprécie beaucoup. Sans le savoir, il devint le premier collaborateur occidental de ce studio d'animation. La production avait demandé à TerraTag de lire une nouvelle de J.D. Salinger, Le Rieur, et d'en faire un logo là-dessus. Le design devient le fameux logo tournant de la série animée Ghost in the Shell Standalone Complex. Et dans la deuxième saison, c'est aussi TerraTag qui a designé le logo archi-référencé des 11 individuels. Alors, il se trouve que Thomas et moi, Thomas porte un t-shirt. Moi, je porte le sweat avec le logo du rire. Alors, je sais, c'est un petit peu difficile pour ceux qui n'ont pas la couleur, ils ne peuvent pas le voir. Et ceux qui ont la couleur, qui voient le logo, donc en fait, il faut penser que le texte défile autour du symbole du visage. C'est pas très évident. Pardon Thomas.
En faisant je vous pirate.
Ah, c'était excite ça. Hein. On a rencontré TerraTag en juillet dernier lors de Japan Expo. Il est très abordable. On l'a re-rencontré d'ailleurs à Angoulême. On lui a fait un coucou. On a un petit peu. Non, toi tu l'as pas vu. Où il est toujours. Sauf qu'il vendait pas des t-shirts à Angoulême. Hein. Il vendait surtout des suites, forcément.
Changement d'époque.
De ses sous, je vais dire plutôt. Il est très abordable, il a vraiment une culture qui est assez ouverte, ça, on en a parlé. Vous pouvez aller voir sur son site terratag.com, TERRATAG.com. Sinon, vous allez sur supplementweekend.fr, vous allez dans les chroniques, et c'est dans le tout dernier lien qui est marqué tout en haut que l'on a rajouté justement son travail. Peut-être que dans ce cas-là, vous seriez intéressé, savoir comment il a fait son compte, comment il a fait pour entrer. On l'a rencontré donc à Japan Expo, il a bien voulu nous accorder une interview, et on s'excuse par avance de l'ambiance sonore de foire de Japan Expo. On n'était pas à part pour faire l'interview, il était obligé de rester sur son stand, et c'était très assourdissant, donc vous étonnez pas que ça soit très bruyant derrière. TerraTag, donc rencontré en juillet dernier, c'était à Paris-Villepinte.
Okay. Nous sommes très heureux de rencontrer ici TerraTag. Comment allez-vous?
Très bien.
Alors en fait, vous n'êtes pas dessinateur, vous ne faites pas de bande dessinée, mais vous êtes un créateur de mode.
Pretty much, graphic art. So the
en gros, c'est ça. Je suis designer d'objets, de t-shirts que je produis. J'ai une entreprise d'impression à Londres qui donc produit les t-shirts que je dessine.
Êtes-vous plus connu par Internet ou vendez vos produits via votre site terratag.com ou dans les magasins?
It's about 50-50.
C'est moitié-moitié à l'heure actuelle, mais nous poussons plus nos magasins. J'ai bientôt une réunion justement avec d'éventuels distributeurs pour la France.
Ce qui vous a fait votre notoriété parmi les fans d'animation, c'est que vous avez travaillé pour la production de la série télévisée Ghost in the Shell Standalone Complex. Comment un créateur de mode londonien se retrouve à faire un logo pour l'adaptation de la série phare de Masamune Shiro?
En 1998, j'ai été approché par un label japonais de musique techno qui souhaitait utiliser mon travail pour les sorties au Royaume-Uni. Ils voulaient importer leur musique japonaise sur les dance floors de Londres et importer au Japon les technos londoniennes. Alors j'ai pondu quelques designs pour eux et j'ai filé au gars qui était spécialement venu à Londres un stock de stickers que j'ai créé. Quand il est revenu au Japon, il en avait collé quelques-uns sur son PC portable. Ce gars, par la suite, fut dans l'équipe d'écriture de la série Standalone Complex. Lors des réunions préparatoires, ce gars discutait avec le réalisateur Kenji Kamiyama. Kenji a vu ses stickers et lui a demandé où c'est qu'il les a eus. Donc, ce gars que je connais, Dai Sato, lui a expliqué que c'est le travail d'un graphiste à Londres et lui a donné mon contact. Kenji m'a demandé de faire des propositions sur le logo du rieur. Ça lui a plu et donc ils l'ont utilisé.
Quand vous avez travaillé sur le logo du rieur, connaissiez-vous l'histoire et la signification de la phrase ?
J'en savais aussi peu que possible. Ils sont très secrets sur l'histoire pendant la production. Ils ne souhaitent aucune fuite avant la première diffusion, donc j'avais vraiment très peu d'infos sur le sujet. C'est seulement un an et demi après que j'ai fini le logo, que j'ai découvert l'animation, et c'était vraiment excitant, vraiment excitant.
Comme vous l'avez dit, ils sont très protecteurs pendant la production et sur les copyrights et les clauses juridiques. Alors comment un grand groupe a concédé de vous laisser exploiter le logo que vous leur avez créé ? C'était prévu dès le départ ou vous avez dû batailler pour en obtenir le droit ?
C'est souvent plutôt difficile de faire des affaires avec des entreprises japonaises. Ils ont des approches très différentes par rapport aux Européens. Mais le copyright n'a jamais été un problème technique. Ils ont été cool pour me laisser vendre quelques t-shirts. Cela n'a vraiment pas été un problème. Production IG se concentre plus sur la production de dessins animés et c'est de ça qu'ils vivent. Ils font pas vraiment de chiffres sur les produits dérivés.
Pour la seconde saison, ils vous ont demandé de faire le logo pour les 11 individuels. Vous avez tenté le jeu de mots graphique avec leur kanji. Ils ont été jaloux que vous jouiez ainsi de leur propre langue.
With the use of the kanji, I was.
Pour l'usage de kanji, j'ai eu droit à beaucoup d'aide de la part de production IG parce que visiblement ils avaient plein d'idées qu'ils voulaient exprimer par le dessin. Alors c'était très complexe. Aujourd'hui, j'ai oublié la signification exacte, mais c'est un jeu de mots très intelligent, car les kanji peuvent avoir de multiples significations et...
Soyez sympa, faites en sorte de ne pas spoiler la saison.
Je peux vous l'envoyer alors, parce que c'est particulièrement compliqué.
Est-ce que cela vous tenterait de créer complètement votre univers et d'en faire un dessin animé ?
Ça serait sympa, mais je ne suis pas scénariste. Et j'aurais besoin de travailler avec quelqu'un capable de sortir une très bonne histoire. Je peux faire en sorte que cela ait un bon look, mais il faudrait absolument quelqu'un derrière dont l'écriture est le métier. Et ce que vous appelez en français un réalisateur. Mais ça serait vraiment cool d'avoir son propre univers.
Après Standalone Complex, travaillerez-vous sur d'autres productions japonaises ?
C'est pas quelque chose que je cherche vraiment. Je veux dire, le travail avec Production IG est venu surtout par mes liens avec Dai Sato. Pour moi, cela n'a pas été très difficile. J'ai pas eu à chercher du boulot. Je me concentre plutôt sur ma marque TerraTag. Je viens tout juste de finir un travail pour une série qui sort l'année prochaine. Ça s'est fait parce que nous connaissons et que c'était sympa de bosser dessus. C'est pas quelque chose sur lequel je compte vraiment pour en faire une activité à part entière.
Est-ce que c'était un bonus appréciable de bosser pour IG pour vendre vos produits au Japon ?
Je pense que si vous voulez faire des affaires en tant que graphiste dans le milieu de l'animation, vous devez accepter de traiter avec tout le monde. J'étais pas spécialement venu pour ça quand une opportunité s'est entrouverte avec IG. J'ai été particulièrement excité de travailler sur Standalone Complex. Dans ce dessin animé, on retrouve vraiment l'esprit du Masamune Shirow de la fin des années 1980. J'aime aussi beaucoup le design des comics. Je lisais beaucoup de comics quand j'étais enfant. Mais quand j'ai lu Appleseed, j'ai compris que la bande dessinée pouvait raconter beaucoup plus qu'une histoire d'aventure. L'histoire d'Appleseed est tellement complète, il y décrit un monde, une technologie, toute une philosophie. Plus j'entrais dans l'univers de Masamune Shirow, plus j'y étais absorbé. Quand IG m'a appelé, j'ai dit « Yeah !» Mais je n'allais pas réutiliser un vieux logo que j'avais fait pour un autre. Pour moi, c'est plus qu'une commande, c'est une occasion très spéciale, un privilège. J'ai vraiment eu du plaisir à travailler pour IG, mais je ne suis pas tenté de faire beaucoup de logos pour l'industrie de l'animation.
Si Masamune Shirow ou IG vous appelle et vous dit « S'il vous plaît, on a vraiment besoin de quelqu'un pour sauver la franchise Appleseed », que feriez-vous ?
J'ai des amis au Japon qui travaillent avec Masamune Shirow et avec IG. Je ne sais pas trop ce qu'il se passe parce qu'il devrait y avoir un troisième gig, une troisième saison de Standalone Complex. On attend toujours le livre 5 d'Appleseed. On n'en sait pas trop sur l'histoire qui va sortir, mais j'espère que cela sortira bientôt. Parce que Appleseed livre 4 est sorti il y a déjà 10 ans, ce qui fait longtemps. Le nouveau devrait être sorti.
Qui vous inspire le plus, le peintre Hokusai ou les designers républiques?
Hokusai. Mais quand j'étais adolescent, les designers républiques étaient très importants pour moi. À 16 ans, je suis allé à Sheffield pour aller les interviewer pour un projet scolaire. La plupart des projets scolaires tournent soit autour de l'art impressionniste, soit des assiettes peintes. Mais j'ai choisi quelque chose qui se faisait là, maintenant, et dont la modernité dans l'art était forte. Designers et public développaient des visuels si forts. Je pense que leur attitude est quelque chose de très important, que cela a eu une influence considérable sur moi. Alors oui, en fait, j'ai été influencé par les designers républiques.
En France, depuis un mois, il y a une nouvelle campagne publicitaire pour la sécurité routière. Peut-être que vous l'avez déjà vu. Le slogan, c'est jaune, c'est moche, ça ne va avec rien, mais ça peut vous sauver la vie. Vous accepteriez de redesigner le gilet de sécurité jaune ?
Je pense que c'est vraiment actuel parce que les gens portent vraiment des couleurs vives à un point que le gilet fluo ne sort plus vraiment du lot, car la mode est une affaire de couleurs. Oui, il mérite d'être repensé, au moins dans une autre couleur. Mais ce n'est pas si moche. La police anglaise avait auparavant un uniforme noir très classe. Maintenant, il ressemble à des espèces de ravers. Et c'est pas réussi.
Et ils disent aux travelers, non, pas ici, s'il vous plaît, circulez.
Circulez, il n'y a rien à voir.
TerraTag, merci beaucoup et bon séjour en France.
Pas de problème, merci.
TerraTag, donc rencontré à Japan Expo à Paris, donc en juillet dernier. Traduction co-réalisée entre Xavier et Thomas. Merci Thomas. Juste une chose, donc c'est vrai qu'on faisait référence à une campagne de publicité qu'on n'a plus vue depuis, la campagne de la sécurité routière avec Karl Lagerfeld.
Lagerfeld,
qui lui trouve que le noir c'est beaucoup plus classe. Enfin bon, des goûts, des couleurs, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Les séries et films Ghost in the Shell, Standalone Complex sont distribués en France par Biz Entertainment et à ne pas confondre avec les films Ghost in the Shell produits
de Mamoru Oshii.
Mamoru Oshii, voilà. Il y a une légère différence. Après, c'est vrai que quand j'ai repréparé et que je me suis rendu compte qu'il avait collaboré avec Aphex Twin, C'est vrai que j'ai revu un peu les albums et tout ça. C'est vrai que graphiquement, ça en est très proche. Je me doute maintenant pourquoi Aphex Twin a fait appel à lui. Complètement autre chose, puisque cette fois-ci, on va directement au Japon. Avec les news, rapidement.
Oui. Oui, une petite news concernant une série animée qui s'appelle Full Metal Alchemist, dont la première série justement se finissait sur une fin ouverte, hein, on peut dire, puisque voilà, les deux frères étaient séparés. Donc la deuxième série qui s'appelle Brotherhood sera diffusée simultanément au Japon et en Europe francophone. Et apparemment, ce sera plus une reprise de l'histoire du manga, puisqu'il faut dire que la première série animée prenait une tangente, on va dire, avec des personnages différents.
C'était un petit peu obligé, puisqu'en fait, quand ils produisent des dessins animés, quand le manga est en cours de production, des fois, ils vont beaucoup plus vite
produire
des dessins animés que le manga. C'est le même problème, ce qui justement était arrivé à Dragon Ball.
Et c'était assez... Oui, non, mais sauf que Dragon Ball, ça restait ultra fidèle à la série, sauf qu'ils avaient fait un arc de plus, hein, ce qui se passe classiquement dans la plupart des adaptations animées, alors que là, c'était assez différent. C'était pas un arc de plus, c'est quasiment une toute autre direction que prenait la série animée. Et justement, cette seconde série utilisera le procédé du simulcast, puisque dans la semaine de diffusion au Japon, les Européens francophones pourront accéder à cet épisode en se connectant sur le site... de la plateforme partenaire d'Ibex. Dans la semaine, ils pourront visionner le film sur internet. Donc
en VOD
vidéo on demande, et en VO sous-titré en français.
Eh ben, c'est un joli effort, parce que c'est quand même pas évident de sous-titrer dans un volet. On parlait de Dragon Ball, justement, où ils avaient utilisé ce procédé. Et avant que l'on parle du film, peut-être signaler que donc Dragon Ball Kai arrive au Japon le 9 avril, produit directement en HD avec une animation beaucoup plus fluide que la série originelle, et pour cause. C'est un reboot de la franchise, comme on dit d'habitude pour les séries américaines. C'est-à-dire, ils reprennent en fait l'ensemble de la série, mais en restant fidèles au manga cette fois-ci.
Oui, ça c'est un peu comme ce qu'ils font avec Spider-Man. Le reboot. Un nouvel épisode 1, ça fait juste le cinquième en 3 ans. Parce que c'est vrai que la série avait un peu vieilli quand même, l'ancienne série. Et, techniquement, on espère avoir de bonnes choses. Surtout s'ils respectent aussi à la lettre le manga de Toriyama, ça peut donner des trucs pas mal, surtout pour une nouvelle génération qui peut-être connaît Dragon Ball à travers la série GT ou à travers la série Z, et qui connaît peu le début, qui était vraiment beaucoup plus humoristique et beaucoup plus créatif.
Qui était plus dans la lignée de Dr. Slump, mais ça justement, Dragon Ball, eh ben, c'est le premier film que tu vas chroniquer aujourd'hui. Il y a deux films que tu vas chroniquer, donc, intro. Monumental. La chronique cinéma vous est présentée en Mondiovision par Thomas. Oui, je sais, tu m'as obligé à le passer.
Non, tu as découvert le morceau maintenant. Allez, on va commencer à juste présenter très 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 rapidement le manga d'origine, puisqu'on parle du film, mais avant tout c'est une bande dessinée qui est sortie, qui a été prépubliée dans le magazine Shonen Jump entre 84 et 95, et c'est un manga dessiné par Akira Toriyama, et qui a été publié dans la même période, entre 85 et 95, par Shueisha, et l'édition française a été publiée par Glénat depuis 93, et ils en sont à des multiples rééditions dans tous les formats.
Quatrième, pardon, excuse-moi. Il y avait les tiers de volume, les volumes. Ensuite, ils ont fait en plus grand, puis en plus petit. c'est un résumé.
Ils ont changé le sens de lecture également, parce que c'était de gauche à droite. Ensuite, ils ont passé de droite à gauche. Ils ont fait une retraduction pour être plus proche. moche, voilà. Donc le manga Dragon Ball, ça a recyclé aussi la légende shinto-bouddhiste, le voyage en Occident, hein, qui a été aussi adapté chez Chiaopan dans une bande dessinée qu'on a chroniquée ici.
Il a été aussi adapté chez Gélu, enfin de multiples fois, oui, hein, oui, c'est un classique, voilà.
Un méga classique, et donc il utilise pas mal d'éléments de cette saga, de cette légende, avec le nuage, le bâton, l'éventail, on retrouve tout ça dans Dragon Ball, qui suit les aventures de Sangoku, un petit garçon au départ qui a une queue de singe et qui va parcourir le monde et subir des aventures pour récupérer les fameuses Dragon Ball, les 7 boules de cristal, qui peuvent invoquer un dragon sacré qui peut exaucer le moindre de nos voeux.
Ariane.
Voilà. Avec les vœux, donc ça peut aller à résurrection d'une personne ou une petite culotte. Mais ça, si vous ne connaissez pas la série, je vous encourage à aller la voir. Il y a aussi Toriyama était aussi passionné de cinéma de kung-fu, hein, puisqu'on voit beaucoup de références à Jackie Chan dans la série, avec le personnage de déguisement original qui s'appelle Jackie Chun, et aussi la plusieurs techniques qui avaient été faites dans les premiers films de Jackie Chan. Comme le Drunken Master, des trucs comme ça, puisqu'on voit la technique de l'homme ivre. On voit aussi Tao Pai Pai, c'est un clone d'un des méchants de Jackie Chan dans l'un de ses premiers films également. Donc Toriyama aussi est également connu, on l'a mentionné tout à l'heure, pour avoir créé la série Dr. Slump, hein, qu'il a dû finir puisque devant le succès grandissant de Dragon Ball. Tout ça nous amène à parler de l'adaptation cinéma, longtemps annoncée, qui nourrissait pas mal de craintes, et qui est réalisée par James Wong, avec Justin Chatwin, James Marsters, Chow Yun-Fat et Amy Rossum. Et ça raconte la venue de l'infâme Piccolo, qui veut conquérir le monde en s'emparant des légendaires Dragon Balls. En cherchant une des boules, il tombe sur la maison du grand-père de Sangoku, qu'il tue d'un revers de la main, parce qu'il est puissant, Piccolo. Goku, ivre de vengeance, part à la recherche des autres Dragon Balls, accompagné de Bulma et du maître Roshi, mais un mystérieux secret se terre dans l'identité même de Sangoku. Alors ce qu'on peut dire, c'est que ça fait 20 ans qu'on l'attendait, ce film, et vraiment, l'adaptation cultissime de ce manga, adulé par tout le monde, hein. Il faut savoir que le film est produit par Stephen Chow, c'est pas n'importe qui, hein, Shaolin Soccer, Toriyama a supervisé, c'est quand même du lourd, et il faut quand même reconnaître qu'on a quand même un film à la hauteur des espérances, hein. C'était vraiment, tous les espoirs qui étaient fondés dans le film se retrouvent, ultra fidèle, on a vraiment un souffle épique qui émane de ce film. Et c'est vraiment j'ai été épaté et j'ai c'est vraiment un coup de cœur que je voulais faire partager à l'antenne.
Thomas, s'il te plaît, non, stop.
Ah bon? Pourquoi?
Non mais attends, oh, s'il te plaît. Bon, alors je te rappelle le principe de quand même dans cette émission. Quand le 1er avril ne tombe pas un samedi, on fait le gag du 1er avril le samedi d'avant, pas le samedi d'après.
Ah ouais, d'accord, j'avais pas percuté en fait. Bon ben on refait.
Non, parce qu'on a fait la blague l'an dernier, on avait promis l'interview d'Akira Toriyama, c'était la semaine dernière. Ouais.
Ah oui, d'accord, c'est la semaine dernière qu'on avait annoncé, d'accord. Donc là ça marche plus alors, le 1er avril.
Non, là c'est un petit peu daté quoi, bon. il est plus très frais. Bon, même moi tu vois, j'ai fait le mien sur AQABD, mais on l'a annoncé quand même le lendemain, on a changé l'article.
Hein. Ok, donc on refait en fait. Hein. Non, bon, je refais. Oui. Ben écoute, je peux rien dire sur ce film, c'est du caca.
Merci. Donc, Dragon Ball Evolution, un film de James Wong, actuellement sur les écrans, sorti le 1er avril dernier.
Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'ils ont bien fait de l'appeler Evolution.
Ça, c'est pas du dragon de PD, c'est carrément un ange.
Non, c'est de la musique, ça.
Oui. On va parler d'un film qui, lui, n'a pas eu droit aux honneurs d'une sortie nationale. Alors en deux pellicules.
Oui,
c'est triste à le dire, mais voilà. C'est pas les meilleurs qui sortent.
Alors, on va quand même parler, je pense, pour la première fois, parce qu'il nous est déjà arrivé de parler de films qui ne sont plus à l'affiche, hein, qui ont été pendant un long moment à Toulouse. Là, on va parler d'un film dont l'unique projection a eu lieu hier soir à Toulouse. Donc, on va vous parler d'un film que vous ne verrez peut-être pas. Hein. Donc,
au cinéma.
Au cinéma, oui, tout
oui,
à fait.
Oui, puisque après, il sortira en DVD.
Donc on parle aujourd'hui du film Evangelion 1.0, You Are Not Alone, avec le note entre parenthèses.
Et nous profitons en studio de la présence exceptionnelle d'Emmanuel Andral, grand spécialiste et thésard autour de la série Neo Genesis Evangelion. Bonjour Manu.
Salut.
Alors, on va commencer à faire le petit pitch et puis tu nous complèteras à ta guise, à ma guise. Voilà. Alors, Evangelion, le titre original c'est Shinseiki Evangelion, plus connu évidemment le nom international Neon Genesis Evangelion. Donc si vous voulez frimer en essayant de prononcer Evangelion dans la prononciation originale, c'est Evangelion et pas Evangelion. Hein.
Voilà, Evangelion et Genesis par contre reste Genesis.
D'accord. Alors, c'est un animé japonais, une série de 26 épisodes, hein, qui a été créée par Hideaki Anno et le studio Gainax, et qui a été diffusée à la télé japonaise entre 95 et 96, qui a connu évidemment un grand succès, et qui a été depuis quelques années, on va dire, le porte-étendard des séries animées, le fleuron, hein, puisque la série a révolutionné le monde de la série animée. Même si y a beaucoup d'excellentes séries qui ont été sorties depuis, mais il faut dire que c'est une série emblématique effectivement pour toute la faune otakuesque mondiale. Hein,
y a un après, y a un avant et un après Evangelion.
Alors Hideaki Anno, est-ce que c'était pas son coup d'essai hein,
Non, il est quand même connu pour pas mal d'autres séries assez réussies comme Gunbuster. Nadia, le secret de l'eau bleue.
Avant ça, le groupe de copains avec qui il a fait avait fait une première animation qui était spécifiquement destinée aux fans d'animation de l'époque, ce qu'on commençait à parler d'otaku.
J'ai plus le titre en tête.
Otaku no Video.
Ah oui, voilà.
Et faut dire, le studio Gainax, c'est pas un studio qui a été monté par des geeks otaku aussi à la base?
Ah oui, justement. Si.
Ah voilà, c'est ça, d'accord.
Il y a l'un des réalisateurs, je crois que son appart, c'est que des laserdiscs, et en fait, il dort dans une étagère. Voilà. Enfin, ça, c'était la légende qu'il y avait à l'époque. Depuis, je pense que le studio a plus ou moins éclaté, hein, d'ailleurs.
Oui, puisque en fait, Evangelion, le film, est sorti sous la coupelle de Caraf, surtout, qui est le nouveau studio d'Hideaki Anno.
Ah d'accord. Ok, et donc il faut dire que c'est pas le premier film adapté de la série, puisqu'il y en a déjà eu deux, donc Death and Rebirth.
Oui, suite en fait à une polémique sur les deux derniers épisodes de la série, il y a eu des films pour tenter de clore donc Death, la reprise des 24 premiers épisodes, Rebirth, le début de ce qui devait être l'épisode 25 en fait, le début, et ensuite il y a eu The End of Evangelion, donc avec l'épisode 25 prime et 26 prime.
Oui, parce qu'il faut dire que la fin de la série avait dérouté pas mal de fans, puisque c'était pas vraiment c'était une fin ouverte, mais on pouvait pas appeler ça une fin non plus en raison des attentes multiples qui avaient été nourries par tout le monde, par tous les fans de la série. Et c'est vrai que clore une série aussi forte par ces deux épisodes-là, c'était quand même.
On fait un résumé pour ceux qui.
Oui, voilà.
Sans spoiler, c'est alors, une psychanalyse de groupe dans un théâtre.
Oui, avec pas mal de.
C'est étonnant pour une série d'action. Sur la fin, on reste.
Avec un très très fort pourcentage des deux derniers épisodes dont le rendu est en rough.
Oui, mais en fait, c'était une contrainte technique, donc ils sont quand même arrivés à faire quelque chose de créatif, avec quand même un vrai discours derrière. Faut savoir déjà que l'épisode 24 n'avait même pas pu être vérifié, ils venaient de finir de le monter, de le foutre sur une bêta, ils étaient déjà en retard pour la diffusion. Donc j'imagine que pour les épisodes 25 et 26 ça a dû être un peu du même ordre, sachant
c'est...
aussi que...
Bon, on évite tout ce qui est animation et tout ça, on fait au minimum et puis voilà, oui, bah, c'est un peu pour ça qu'ils sont accélérés.
Bah, ils sont fait allumer aussi sur le scénario original prévu qui est en fait plus proche de ce que ça a donné sur les films. Ils sont fait un petit peu allumer par la censure aussi, donc ils ont dû faire quelques compromis. On peut voir les deux derniers épisodes de la série aussi comme un coup de gueule quelque part.
Oui. Bon, on va quand même dire le pitch hein, de la série. Donc, c'est en l'an 2000, une gigantesque explosion se produit en Antarctique, provoquant un cataclysme et rayant de la surface de la Terre une bonne partie de l'humanité. Il y a beaucoup de morts, on peut dire. Cette catastrophe prétendument due à un astéroïde est appelée le Second Impact. 15 ans plus tard, des entités mystérieuses appelées des anges font irruption au-dessus de Tokyo 3. Gendo Ikari, le directeur de la NERV, organise aux moyens colossaux, créé pour éliminer les anges, fait venir son fils Shinji, qui n'a pas vu depuis 3 ans, dans le but de lui ordonner de doter des créatures géantes, les unités de combat Evangelion. Je ne vous ai pas fait l'affront d'appeler ça des mechas, puisque j'allais me faire assassiner. On peut pas dire non plus que ce sont des robots géants non plus. Vous verrez ça, c'est plus organique.
Mechas, voilà. Ça doit être autorisé, je pense, mais faut pas dire robots, je pense.
Voilà. Donc la fin de la série proposait une fin bizarre. On a eu donc ce fameux film dont tu parlais tout à l'heure, The End of Evangelion, qui a proposé cette fois-ci une vraie fin, mais bizarre aussi.
Oui, bah, ceux qui espéraient une fin compréhensible,
on aurait été pour leur frais.
Pas de bol.
Pas de bol.
Alors on va juste passer en revue rapidement pourquoi cette série a créé la révolution, hein, puisque elle a été surtout connue pour la richesse des thèmes, pour les combats de mecha sanglants et la mise en scène de ces combats, puisque même le look des mechas c'est beaucoup plus bestial et organique plutôt que vraiment du robot à la Gundam. Hein. On a aussi par exemple les Eva combattent avec des cutters géants ou des trucs comme ouais, ça
c'est une grosse ode au maquettisme hein, dans
oui,
plein
tout
d'éléments.
À fait. On a la profondeur de l'intrigue sur plusieurs niveaux de lecture, on peut dire chaque fois que tu vois la série tu découvres un niveau de lecture ou de métaphore en plus. Tu as aussi des nombreuses références bibliques, tu as
c'était pas la première fois que ça apparaissait dans les dessins animés japonais, mais c'était la première fois que c'était exploité dans ce genre d'intrigue là et à ce niveau là
voilà. Une réalisation également au parti pris radicaux, on a parlé tout à l'heure de la façon qu'ils avaient de contourner les contraintes techniques la série. C'est vrai que pour ceux qui l'ont vu, il y a beaucoup de plans interminablement longs et non animés qui illustrent bien
c'est le summum du stop motion là,
voilà, le summum on peut dire oui.
Ah bah, je crois qu'ils sont arrivés jusqu'à 58 secondes une fois ou voire plus
avec un seul dessin,
avec un cellulo, un dessin.
C'est le plan avec Aoru, hein, c'est ça?
Oui, il y a ça, puis t'as le plan de l'ascenseur où ils ont rajouté un clignement d'yeux dans le film.
Ce qu'on appelle un moki-moki
des anciens films.
Voilà. Donc par exemple, on va illustrer l'exemple, hein, c'est deux personnages qui se font la gueule dans un ascenseur.
Voilà.
Avec, c'est un plan fixe où pas une des deux ne veut faire le premier pas pour parler à l'autre. Voilà.
Voilà.
Donc c'est un bon stratagème pour contourner la contrainte de défaut de moyens et proposer quelque chose d'extrêmement pertinent. Le film Evangelion 1.0 reprend les 6 premiers épisodes de la série. Donc pour les connaisseurs, c'est juste avant l'apparition de la célèbre Asuka, la fameuse pilote aux cheveux de feu et qui est super énervante à écouter.
La tsundere.
Voilà. Et le principe du film, c'est que ça reprend certaines scènes plan par plan, mais qui propose aussi beaucoup de rajouts. Alors, est-ce que pour autant on est face au syndrome George Lucas ?
On pourrait le penser au début, mais bon, après l'avoir vu sur grand écran, je dois avouer que je m'en fous. Je suis très content de l'avoir vu sur grand écran, ça fait plaisir. Et en plus, malgré les raccourcis, j'ai trouvé quand même assez réussi.
C'est quand même une série qui a eu énormément de succès. Et on a une grosse surprise, c'est que Toulouse a été la projection avec le plus grand nombre d'entrées en province.
Pour une seule projection.
260, je crois.
269 spectateurs pour la projection. Voilà, on a éclaté de loin les autres provinces qui naviguaient entre 110 et 150. Hein.
C'est un peu la loose pour les autres.
Donc,
hein.
Oui, c'est ça a été l'énorme surprise, quoi, parce que c'est vrai que ça a été.
C'est quand même un film, en tout cas pour les geeks qui sont quand même pas super rares non plus, c'est quand même une série super attendue. Un film super attendu, on pouvait s'attendre à mieux quand même.
En même temps, l'organisation du Toulouse Game Show a mis l'ambiance, ça a aussi un petit peu aidé.
Voilà. On pouvait s'attendre à mieux au niveau distribution, hein, pas au niveau.
Oui,
qualité,
on pouvait s'attendre à mieux, mais nous on a eu du bol parce que nous on a eu la VO, on n'a pas eu le doublage de merde. Enfin, je te laisserai en parler si tu souhaites en parler.
Bah, il faut dire que la VO, c'est un truc à voir quand tu connais que la VF, tu vois la différence. Même si, personnellement, il y a certains personnages comme celui de Rey qui passent étrangement, c'est un avis perso, assez mieux en VF, je trouve. Pour la voix monocorde et presque robotique.
Peut-être pour la série, pour les films, Evangelion, tout ça, non.
Il faut dire que les films qui existaient déjà, dont on a parlé tout à l'heure, la VO, la traduction française n'est pas la même, ce ne sont pas les mêmes doubleurs.
Alors on va il y a des petits problèmes de micro. On va juste faire une interruption, on va vous passer justement le générique de fin Fly Me to the Moon qui n'est pas dans le film, mais avec la voix de Rey, puisqu'il y a plusieurs versions du générique, donc c'est avec
oui, il y en a.
Il y en a. un peu, et c'est vrai que c'est cette voix doucereuse et tout ça pour un personnage qui est particulièrement désaxé, mais qui ne l'est pas dans la série.
Oui, la VO de ce personnage justement illustre beaucoup plus un certain côté kawaii et même plus classique dans la voix d'un personnage par rapport aux autres séries animées. Alors que je parlais de la VF tout à l'heure, c'est vrai qu'elle avait une voix qui était très identifiable et qui sortait un peu du lot.
Ouais.
Alors on parlait des ajouts tout à l'heure qu'on jugeait pertinents, mais on n'a pas dit de quoi il s'agissait. Donc on a dit que c'était un mix entre des scènes qu'ils avaient gardées telles quelles et un nouveau rendu pour les scènes de baston. Donc c'est surtout dans les scènes d'action que le changement est le plus visible, puisque ce sont des nouveaux effets spéciaux, un nouveau rythme de nouvelles scènes. Il y a certains anges, puisque ce sont les entités méchantes qui arrivent, donc les anges sont surtout un et vraiment particulièrement relooké, avec un ajout de 3D qui, au détour de certains plans, pourrait nous faire penser que c'est un peu flirte avec la gratuité, mais n'atteint jamais la limite. Donc tu vois, du dégradé, de la 3D en plus, mais finalement, ils sont restés dans la limite. Comment ?
Le rendu est pas mal quand même.
Le rendu est pas mal, justement, ouais.
Hormis quelques petits plans où il est un peu plus paresseux, il y a quand même... les Eva, parfois on oublie le cel shading. Hein.
Oui, tout à fait. On a les anges relookés, on a des scènes de dialogue rajoutées, surtout quelques-uns qui sont particulièrement jouissifs pour les connaisseurs et qui illustrent bien un complot beaucoup plus présent depuis le début, typiquement pertinent par rapport au personnage qui le sort. Et ces ajouts, qu'est-ce que ça provoque ? Ça provoque un rendu beaucoup plus organique, beaucoup plus centré sur le rythme et sur la baston, et sur vraiment le. Puisque la série, c'est vraiment. La plupart, c'est des personnages qui passent leur temps à fuir, à parler aux gens de par en dessous, à être voûtés, à sans rien faire, enfin, surtout pour un personnage en particulier. Et là, c'est vrai que le film va beaucoup plus au cœur des choses, quitte à ce que...
Ils ont tous des problèmes relationnels, en fait.
Oui, tous, hein,
tous, sans exception.
Sauf Pen-Pen.
Oui, le pingouin d'eau chaude.
Voilà, c'est l'unique exception à notre connaissance, mais après, c'est effarant.
C'est
une description de l'adolescence et des adultes qui n'ont pas passé le cap de l'adolescence qui est étonnante.
Tous ont un manque, dont on va s'arrêter là, de ce côté-là, qui illustre bien la fin de la série, mais ouais, c'est vrai que tous ont quelque part une faille qui est plus ou moins rapide à venir, selon les personnages, et les rajouts dans le film donc font passer Shinji pour quelqu'un qui est moins abaffé, on peut dire, qui se bouge le cul un peu plus.
Oui, il se bouge le cul un peu plus, surtout pour l'affrontement final, où quand il commence à tenir l'arme avec l'Eva qui se lève, il y a un petit côté « ça y est, je suis un homme, regardez ma grosse...
Voilà. » faut dire que la métaphore phallique est bien plus présente dans le film que dans la série.
Voilà, c'est comme ça qu'il faut dire, Manu.
Et c'est mieux. c'est vrai que la dimension sexuelle dans le film est...
Stop.
Et beaucoup plus présente. On voit plus, on voit qu'à côté temps qu'on voyait pas dans la série, le corps de Rey justement était coupé juste comme il fallait.
et puis c'est un petit peu de fin de service.
Voilà. Et c'est vrai que ils ont réussi le tour de force quand même, puisque ils reprennent 6 épisodes. Donc chaque épisode, c'est vrai que la tradition quand tu lances une série, c'est que les premiers épisodes sont un peu pour présenter l'ambiance, les personnages. Et c'est vrai que le rythme est crescendo. Et là, ils ont réussi à transformer la fin d'un épisode en climax de film, puisque justement tout concourt. Concours dans le film pour justement cet affrontement final où Shinji étale, on peut dire, sa virilité devant Rey et en essayant de battre un ange qui a quand même une attaque, on va dire, assez portée sur le phallus aussi, puisqu'il est en train de forer dans un QG pour essayer d'atteindre
le coffre-fort.
Le coffre-fort. Donc on peut résumer ça, le film à ça, et c'est vrai que les rajouts sont très très pertinents, et on a parlé de George Lucas tout à l'heure qui franchement à côté c'est un sommet de gratuité, hein, on va dire.
Ah ouais, tout à fait d'accord.
Lui c'est tiens, on va vous arnaquer encore plus de sous parce que c'est exactement ce rendu que je voulais faire avant. Qu'est-ce que ça rapporte? C'est plus d'extraterrestres qui ouvrent la bouche, plus de vaisseaux, bon bref.
Lui il pervertit certaines scènes alors qu'Anno les sublime.
Voilà, exactement. On va ajouter un élément, c'est qu'il faut pas partir pendant le générique de fin.
Non, et surtout, faut que les organisateurs se renseignent un petit peu et qu'ils évitent d'intervenir pile à la fin du générique quand il y a un trailer.
Oui, parce que tu me disais en préparant l'émission que c'est pas la première fois que ça arrive.
C'est pas la première fois que ça arrive, c'est déjà arrivé à un festival à Pusan, alors je sais plus trop où ça se trouve, ça.
En Chine ou en Corée.
Où le public a dû gueuler pour avoir son trailer et remettre le son un peu quasiment au même endroit que nous.
Et on vous parle du générique de fin, puisqu'il y a la bande-annonce du prochain film qui est après le générique et qui présente un personnage inédit, on va dire.
Oui, un personnage inédit, puis deux nouvelles Eva, les Eva 05 et 06, qui ne seront donc pas celles des films de 97.
Et sachant que le film, avant le générique de fin, finit sur un twist final absolument énorme, avec une apparition d'un personnage bien connu des fans qui, dans la série, n'apparaît que vers la fin.
Voilà, quel épisode 24 ?
Voilà, donc là, tu peux te dire, ah oui, oui, là, il y a des raccourcis, vivement la suite.
Alors, si vous ne connaissez pas Evangelion, donc, qui est disponible en DVD sur la série complète, il y a aussi donc les deux films de résumé, il faut savoir aussi que c'est quelque chose qui a une portée énorme dans le dessin animé, et pas que dans le dessin animé japonais, on retrouve dans pas mal d'éléments ailleurs. Si vous souvenez, si vous voyez Elric de Menimone, c'était toujours le grand méchant ambigu albinos avec les yeux rouges, et bien là vous avez à peu près la contrepartie avec la fille timide et tout ça qu'on sait pas trop, avec les cheveux bleu pâle. Vous le retrouvez un petit peu partout. Je crois même que ça a fait une apparition dans un film de Besson, je suis pas sûr, mais je ne les regarde pas en général.
Il y a pas mal d'allusions à Evangelion dans beaucoup de séries, notamment dans une série qui s'appelle Sergent Kiroro, que tu as chroniqué ici, où on voit mais vraiment au cadrage près, puisqu'il faut dire qu'Evangelion par justement l'économie de moyens avait tout misé aussi pas mal sur les cadrages, vraiment avec des personnages qui toisaient les autres et qui illustraient pas mal les rapports de force entre les personnages. On voit ça dans le Sergent Kiroro, justement le personnage timide et très effacé avec les yeux rouges, tu le retrouves dans quantité d'allusions plus ou moins masquées. Il faut aussi dire qu'il y a plusieurs séries de mangas, puisqu'il y a le manga qui a été développé en parallèle de la série animée, par le character designer de la série Sadamoto.
Oui, ce serait bien qu'il le finisse d'ailleurs.
Il y a aussi d'autres mangas, donc la série
qui est édité chez Glénat en France. Oui.
Evangelion Iron Maiden, c'est ça ?
Oui, mais j'ai pas envie de me souvenir là.
Voilà, et t'as aussi une série parallèle qui s'appelle Le Plan de complémentarité de l'homme.
Oui, pas vu non plus, mais il paraît que c'est mieux.
Oui, le design est assez sympa, alors que là c'est vraiment quelque chose à part. Puis voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de...
Sinon, juste petite parenthèse, Evangelion est quand même assez connu, même en dehors du territoire japonais, et il y a même des acteurs comme Robin Williams qui font quelques allusions dans leurs films,
à travers le film,
qu'ils sont fans d'Evangelion.
On voyait une apparition d'un Eva 05 dans le film Photo Obsession.
Oui, d'ailleurs, c'est très marrant ce qu'il en dit.
Je l'ai pas vu, il faudra... là, vous me donnez envie. C'est déjà que ça fait un mal, il faudrait que je me le mate.
Alors, on va rappeler la référence du film Evangelion 1.0, You Are Not Alone, un film de Kazuya Tsurumaki, Masayuki et Hideaki Anno, et qui est produit par le studio Gainax.
Oui, petite correction, à un moment donné, tu as parlé des anges comme des méchants, mais c'est faux.
Oui, mais c'est pour simplifier, parce que
au
début, ils sont représentés comme des bad guys, après tu dis que...
Supplément week-end, 4 avril 2009, thématique spécial manga annuel, il est 12h50, on n'a pas encore fait les sorties, bande dessinée, pardon, mangas.
Un mangas aujourd'hui.
Voilà. Mais quand même, on va faire une petite interruption sonore du sport, lui, allez-y les enfants. Moi, je me la pose. Pizzicato 5, The Earth Goes Round. Un remix par Daddy O'Alf sur l'album Happy End of You. Je peux pas m'en passer de cet album, il est toujours aussi bon.
la la la.
Pizzicato 5's Earth Goes Round, un mix par Daddy Wolf. C'est le supplément week-end spécial annuel sur l'Asie, donc sur le Japon cette fois-ci. Donc pour rappeler, on le fait tout au long de l'année, de parler justement du manga, du Japon et tout le reste.
Ouais, les trucs de Shintok, quoi.
Et voilà, et nous, on fait un truc à part comme ça chaque année pour un peu faire une espèce de bilan.
Donc là, vous le voyez pas, mais il y a des pétales de cerisier qui tombent sur le studio.
Voilà. Osamu Tezuka, c'est le dieu vivant du manga, du moins vivant jusqu'en 89. Ça a été celui qui a vraiment créé la méthode moderne de production de manga. C'est celui qui a lancé la production de séries de dessins animés au Japon, qui a créé justement cette fameuse technique du stop motion. Et il a fait des œuvres qui étaient soit pour enfants, on en parlera tout à l'heure avec Astro Boy ou encore Le Roi Léon, et il y a aussi des séries beaucoup plus adultes, que ce soit l'histoire des trois Adolphes et donc Gringo. Gringo vient de sortir dans la collection Sensei chez Kana, unique tome, vous comprendrez pourquoi après. C'est l'histoire d'Imoto Hitoshi, qui est un homme mûr, trapu, assez fort, mais surtout incroyablement tenace. Il a réussi à grimper tous les échelons de la multinationale Edo, pas uniquement parce que c'est un peu le protégé du grand patron, aussi parce qu'il a une terrible soif de réussite, et qu'il met les moyens qu'il faut pour arriver à ses fins. C'est ainsi qu'il se retrouve à 35 ans à la tête d'une des filiales sud-américaines de Edo, et qui espère bien frapper un très grand coup. Sauf qu'on est au début des années 1980, on est en 82, que la violence aussi bien des dictatures militaires que des guérillas communistes n'égale pas encore celle des cartels de la drogue, mais elles font quand même des ravages. Les obstacles sont nombreux et pas du tout du genre auquel s'attend Monsieur Itomo. Ce dernier est un homme d'affaires japonais, plus habitué au monde du business et de la gestion d'entreprises sur Archipel que dans le vaste monde. Et Itomo Hitoshi va donc découvrir que les obstacles qui vont se dresser contre lui sont plus puissants et tout puissants sur ce continent, que la corruption y règne en maître, et que la menace d'un licenciement n'est pas forcément la plus terrible pour ses employés. À la lecture des premiers chapitres, on se dit que Tezuka a surtout voulu dénoncer la violence des dictatures militaires en Amérique du Sud. Mais plus on progresse dans l'histoire, et plus on se rend compte qu'en fait, il tend un miroir à ses lecteurs. Il présente en fait le comportement des Japonais face à eux-mêmes. Ils se regroupent toujours entre exilés, ils ne tentent pas de comprendre le pays où ils vivent, ils pensent de manière obsessionnelle à leur travail et à leur réussite au sein de leur entreprise. D'ailleurs, le nom du héros principal de cette histoire, Imoto Hitoshi, s'écrit japonais en japonais, et Edo, le nom de l'entreprise, était l'ancien nom de Tokyo du temps du shogunat. La référence n'est pas évidente pour le lecteur occidental, mais Jean-David Morvan la souligne dans sa préface. C'est une œuvre adulte où les corps s'enlacent, mais aussi où ils se font désarticuler par la violence. C'est aussi la dernière œuvre que Osamu Tezuka a laissée inachevée en 1989, emportée par la maladie. Tezuka a pris le luxe de beaucoup voyager les 10 dernières années de sa vie, justement pour s'ouvrir, et il a voulu faire s'ouvrir ses compatriotes au monde qui les entoure et à mettre le doigt sur le fait que, est-ce que vous vous rendez compte comment vous traitez les Japonais ? Comment vous traitez les étrangers au Japon et comment le Japon est vu de l'extérieur. Oui, parce que vivre au Japon quand on est étranger, ce n'est pas franchement une sinécure. Osamu Tezuka, Gringo, album unique de dans la collection Sensei, collection adulte chez Kana. À côté de cela, peut-être que ça est passé un petit peu vite. Vous l'avez sûrement manqué. Oups. Ok, on a le lecteur CD qui déconne. Ça arrive. On est à l'antenne. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il a fait une série qui s'appelait Astro Boy. Astro Boy, le tome 1 sur 5, vient de ressortir dans la même collection, collection Sensei chez Kana. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire d'Astro Boy, alias Atom Taishi en VO, ambassadeur de l'atome, les éditions Kana en éditent une anthologie en 5 volumes, d'un confort de lecture supérieur aux éditions poche précédemment proposées par Glénat, basée sur la restauration de 1974. Il y a des petits inconvénients, des petits défauts de moirage à cause des trames, mais gros bonus à la fin avec une histoire de l'auteur racontant la naissance de cette BD culte, qui deviendra plus tard la première série de dessins animés japonais pour la télévision. Et Astro Boy, l'histoire d'un jeune enfant qui a été renversé. C'était l'enfant d'un savant, et ce savant a décidé de refaire son enfant, un enfant robot, et qui va devenir le héros de tous les enfants. Et c'est magnifique et c'est superbe. Et Astro Boy, c'est surtout connu pour sa coupe de cheveux avec ses deux gros épis. Même Calvin et Hobbes, il se coiffe hein, comme ça. Et
personne ne parle du fait que c'est un enfant en slip quand même.
Hein. De suite.
Tandis qu'on parle de Astro Boy, il faut mentionner aussi qu'un film en 3D d'animation est actuellement en post-production, en finalisation, et qui sortira bientôt. Avec un rendu 3D qui déstabilise.
Ça a déjà été tenté pour la série de dessins animés qu'ils ont sorti en 2001, qui était passé en France sur la 3. Mmh. Et c'était pas super. Voilà. Super, des erreurs de calage, ça arrive. Intermezzo de Torimiki. Le quatrième tome vient de sortir chez IMHO Édition. Alors, Intermezzo, c'est un format carré, c'est un gaufrier, c'est des histoires muettes, et c'est que des gags visuels. Alors le problème, c'est qu'il faut arriver à rentrer dedans. Et pour la plupart des lecteurs occidentaux, c'est quelque chose, ils y arrivent absolument pas. C'est un dessin super géométrique, avec plein de gags graphiques ils sont pas franchement référencés. Mais ils sont assez particuliers. Intermezzo, en italien, ça veut dire intermède. Et c'est justement ce qu'est censé être cette bande dessinée. C'est-à-dire un moment de coupure. C'est un petit strip dans un journal pour prendre un intermède dans la vie normale avec des trucs qui n'ont absolument aucun sens. Torimiki, Intermezzo, le quatrième tome, vient de sortir chez IMHO. Pas besoin de traduction puisque ce sont des histoires muettes. Le gros problème, c'est que certains gags, on n'arrive pas à les comprendre. D'autres nous font bien rire. Mais c'est un objet visuel qui est complètement à part. et je veux dire un petit peu peut-être trop difficile à accéder, je veux dire pour qui a du mal justement à rentrer là-dedans. Intermezzo de Torimiki, le quatrième tome donc chez IMHO. Bon week-end en direct sur Radio FMR 89.1 MHz. On continue les sorties manga avec Keito Me qui vient de sortir un one-shot qui s'appelle Luno, traduction francophone chez Darkana. Tito est un garçon qui n'a jamais connu son père, mort à la guerre. Il vit seul avec sa mère et il sait bien que sa grande sœur n'est jamais montée à la capitale mais morte de maladie. Il va rencontrer par hasard une fille des rues, Zeta, légèrement plus âgée que lui et qui vagabonde. Quelque chose va se passer entre deux, mais pas exactement de l'amour, plutôt de la confiance. Zeta confie son trésor, une montre à gousset, à Tito, en le suppliant de la cacher, étant poursuivi par une étrange secte. C'est une histoire complète sur comment une petite fille vivante passe dans le côté gothico-romantique de l'amour. L'un des très rares travaux de Keito Me, plus à destination des adolescents que des adultes. C'est une Keito Me est une dessinatrice qui sait donner une ambiance très belle, mais morbide, à ses histoires. On la connaît principalement pour sa série Les Lamentations de l'Anneau, parue en 7 tomes chez Delcourt, qui a été adaptée en animation par le studio Madhouse. Mais aussi, une réputation de, elle a une réputation de très vite se lasser et donc de produire des séries très courtes. Luno fait donc partie de ce lot, même si elle a laissé entendre qu'elle comptait en faire une suite et un tome 2. Ça, c'était en 2003. Même pour un dessinateur japonais, surtout pour un dessinateur japonais, ça fait très longtemps. On saluera quand même le travail particulièrement soigné de l'éditeur francophone Kana, aussi bien sur la jaquette que la reproduction des dessins couleurs, et ça permet vraiment d'avoir un très beau bouquin. C'est un one-shot, donc on peut l'offrir à quelqu'un sans qu'il se sente piégé dans une histoire. Keito Me, Luno, c'est donc chez Darkana. Et tout à fait autre chose maintenant avec My Way de JD. Le troisième tome est sorti depuis un mois chez Tiaopan. Je sais, c'est de la bande dessinée chinoise. On a reçu JD sur ce plateau il y a 2 ans à peu près. Une dessinatrice complètement folle furieuse, mais c'est vrai qu'on pourrait croire qu'elle sort directement d'Harajuku quand on voit comment elle est fringuée. Bah non, pas du tout, c'est une dessinatrice qui a vraiment une sensibilité complètement à part, qui est vraiment superbe. My Way, le troisième tome, s'appelle Blue Cookie, et on suit toujours son étrange personnage, V, personnage qui est habillé dans haute forme et au cœur épinglé sur son manteau, qui continue à voyager d'histoire en histoire à la découverte de multiples facettes de l'amour. Dans le deuxième tome, on avait découvert pourquoi cette errance et pourquoi il tente de réparer certaines histoires d'amour. Tiao Huan est une jeune ado rêveuse qui souhaite un jour trouver l'amour et aussi plus vivre dans ses rêves que dans la triste réalité des adultes. Cette jeune fugueuse va par hasard se retrouver dans les pas de V et va s'incruster dans son voyage sans fin. J'y dis, imagine toujours avec une infinie douceur ses palettes de couleurs, qu'elles soient claires ou sombres, mais toujours chaleureuses. Ces personnages ont rarement une bouche, des yeux ronds et noirs, mais un cœur gros comme ça. C'est comme à chaque fois un enchantement que d'ouvrir ses albums, des poésies d'une infinie délicatesse. Chaque chapitre est une histoire complète à elle-même, avec une postface. Sorte de journal intime de J.D. qui explique l'état d'esprit avec lequel elle a dessiné chaque épisode. J.D., le troisième tome de My Way s'appelle Blue Cookie et vient d'arriver donc chez Tiaopan. Oui ? Non ? Quoi ?
Non, on boit tes paroles, Xavier.
Merci, d'accord. Ok, c'est comme ça. Dus, t'es prêt? Et c'est parti, et il a planté ce lecteur, super. Voilà, vous écoutez FMR 89.1 MHz, c'est le supplément week-end, et comme d'habitude, eh ben, on a des gros soucis techniques. Voilà, et c'est parti. Alors, du sport. Oui, je te laisse arriver, t'installer.
Ouais, tranquille. Alors bon, moi j'essaie de vous trouver des trucs dans les mangas, mais enfin bon, il n'y a pas grand-chose à la télé, hein, c'est comme d'habitude. Il faut plutôt se référer aux chaînes qui sont consacrées à ça, c'est-à-dire manga, la chaîne manga, ou alors les chaînes un peu plus généralistes, mais qui sont connues pour passer pas mal de mangas, tels que Game One, avec les traditionnels Nicky Larson, les Chevaliers du Zodiac, Naruto Shippuden, etc. Dragon Ball GT, c'est sur MCM en ce moment. Voir la nouvelle saison inédite des Pokémon 11 sur Disney HD.
Pokémon, attrapez-les tous.
Non, ça a changé là.
On n'est plus assez jeune.
Mais comme par ailleurs, c'est Rick Club vous propose dès jeudi prochain une soirée anglaise. Je me suis dit, ok, je vais jouer la carte le tout anglais sans problème. Avec une soirée complète dédiée aux nouvelles productions britanniques, que ce soit des productions sérieuses, que ce soit des trucs comiques ou que ce soit plus des émissions dans la tradition britannique, à savoir le Catherine Tate Show par exemple. Ça débute avec dès dimanche soir, c'est-à-dire demain soir, State of Affaires d'État en français, qui avait déjà été diffusé au screening précédent de Série Club. Ça se passait l'année dernière, chaque année il y a un screening où ils passent des séries originales qui n'ont pas encore été diffusées. Ils font voter bien entendu les téléspectateurs, et ça dégage un choix qui va permettre à la chaîne de pouvoir diffuser la série citée. Ça avait été le cas donc pour Veritas The Quest, qu'on n'a toujours pas vu, mais enfin bon, ça c'est pas grave, et aussi Sex, Love and Secret qui avait été diffusé, et Affaire d'État donc figure en deuxième position, et ils ont eu la bonne idée de commencer la diffusion de cette série, mais accompagné d'un autre mini-screening, on va dire, concernant d'autres séries britanniques qui vont être regroupées en une seule soirée, celle de jeudi prochain. Alors, de quoi parle un petit peu Affaire d'État? Eh bien, c'est quand même un thriller qui se passe dans le monde politique et qui a lieu juste après ce fameux 11 septembre, mais vu plutôt du côté de l'Angleterre, hein, c'est bien entendu en Angleterre que ça se passe, et ça se passe dans les milieux généralement bien informés, ce qui veut dire que on va avoir notre lot d'affaires d'espionnage, de petits secrets, de gros secrets, certainement aussi pas mal d'action. C'est une série qui a quand même été nommée deux fois au Golden Globe, donc ça garantit quand même une certaine compétence et une certaine qualité. Et donc c'est diffusé à partir de demain soir 20h40, deux épisodes sur Série Club en version masterisée, multilingue pardon, pour la soirée.
Oui, j'ai mal compris là.
Non mais moi je m'y ferai jamais de toute façon. Pour la soirée de jeudi, alors là on peut avoir des petites choses assez intéressantes. Ça commence avec à 20h40 Série Clone, qui est quand même produite par Adam Chase, un des producteurs de la série Friends, qui raconte les mésaventures d'un scientifique qui essaye de fabriquer le clone d'un super soldat, mais qui va tomber sur pratiquement l'inverse, à savoir un mec super cool, vachement doux, calme, gentil, avec Jonathan Pryce dans le rôle titre. Jonathan Pryce, donc on peut s'attendre à un truc relativement intéressant. Suivi de Headcase, qui est une série d'animation en 3D qui est un petit peu l'équivalent britannique des guignols de l'info, hein, c'est-à-dire vraiment très politiquement incorrect, c'est décapant, c'est également rigolo et tout. Avec,
c'est le producteur des il y a le producteur de Spitting Image.
Ouais, il me semble que c'est un petit peu le même genre que Spitting Image, quoi, donc ça dégomme quand même à tour de bras. Je suis en train de vous chercher justement le programme exact de Headcase, parce qu'il y a quand même des trucs assez intéressants. Nicolas Sarkozy qui interprète Mr. Boomastic de Shaggy, Victoria Beckham qui essaye de se faire engager dans un film de Steven Spielberg, enfin des petits trucs comme ça, donc on peut voir ce que ça donne. Ça c'est Headcase donc à partir de 21h10, et une première partie à 21h10 et une deuxième partie à 23h05. Ensuite, à 21h35, The Catherine Tate Show. Alors ça, c'est la grande tradition des shows humoristiques basés sur un, voire deux personnages. Alors on connaît par exemple le groupe de trois femmes dans Smack the Pony, on connaît French Smack and Saunders, Saunders bon c'est un petit peu dans ce même genre, à savoir que là il s'agit
French
d'une
Saunders,
nana
c'est French, c'est elle qui par la suite a, Saunders pardon, c'est
Jennifer
elle qui a
Saunders
fait,
qui a fait Absolutely Fabulous dans lequel autres. Dans laquelle série dans laquelle on voit bien entendu Dawn French intervenir de temps en temps quand même. Hein, mais French and Saunders, il y avait également d'autres. Là, il s'agit de Catherine Tate, donc hein, qui pour un truc qui s'appelle simplement The Catherine Tate Show, donc où on la voit dans une multitude de sketchs et tout. Un petit peu comme Ben Hill, hein, Ben Hill faisait également ça dans le temps, à savoir que
c'est
un transformiste qui faisait tout et n'importe quoi, du gag avec tout et n'importe quoi, déguisé en tout et n'importe quoi. Ensuite, une série qui est un petit peu plus adulte, on va dire, hein, qui s'appelle Teenage Kicks, quoi. L'histoire est simple, le pitch est vachement simple. C'est un mec qui trouve refuge chez son fils et chez sa fille, mais qui habite déjà chez quelqu'un. Et donc, il va y avoir une espèce de petit conflit des générations à ce sujet-là. Bon, comme c'est britannique, c'est toujours très bien écrit, donc on peut s'attendre quand même à un humour, un style My Tribe, enfin des petites choses comme ça, donc ça peut être très sympathique aussi. Et aussi, on a eh bien la romance un petit peu adolescente avec Grown Ups, qui est un petit peu, on va dire, un soap sur les tribulations de jeunes à la recherche du grand amour. Ah, c'est beau, c'est joli, c'est magnifique. Et donc, après Grown Ups, le jeudi soir à 22h35, donc à 23h05, la deuxième partie donc, de Head Case. Voilà pour cette soirée britannique, donc série britannique sur Série Club, qui, je rappelle, commence demain soir avec Affaires d'État, deux épisodes, hein, il y en a sept au total, deux épisodes donc demain soir à 20h40 et jeudi, à partir de 20h40, Clone, à 21h, Head Case, à 21h35, de Catherine Tate Show, à 22h10, Teenage Kicks, et à 22h35, Grown Ups, suivi encore d'une deuxième partie de Head Case. Sinon, on a également la rediffusion, c'est une rediffusion, mais là, c'est une diffusion sur France 4, qui achète aussi anglais, et qui nous propose la rediffusion, donc, dans son intégrale de MI5, ou alors Spooks, dans la version originale. Là, c'est à partir de la première saison, avec Matthew McFadden et tous les autres, donc ça vaut le coup. C'est sympa. On reproche simplement à France 4 de ne pas diffuser tous les épisodes dans l'ordre, mais enfin, bon, ça, on est habitué avec les chaînes française, c'est même pas la peine de se répéter.
C'est quand que je note?
Alors ça, c'est le dimanche également à 20h35, donc MI5, yes. Donc en concurrence avec Affaires d'État.
Oh, ce sera toujours mieux en tout cas que le film du dimanche soir sans David Caruso.
Alors, je voulais vous trouver quand même quelques petits films manga à la télé cette semaine. Eh ben, Kechi, vous irez repasser, hein, tout simplement.
Il y a plein de films japonais sur Cinéfix.
Mais, non, même pas, quoi. Je sais pas, j'ai même pas fait gaffe.
Si.
Peut-être.
Si, je les ai vus.
Oui, mais c'est des films japonais, pas des mangas. Ah ouais, non, mais bon,
ouais, mais en
attends,
plus, t'avais déjà fait les films asiatiques il y a
pas
longtemps.
Ouais. Par contre, les films anglais, j'avais pas fait, quoi, donc...
Ok, on fait juste une émission spéciale manga et spéciale Angleterre.
So British. Eh ouais. Avec ce soir, sur Canal+, c'est une des premières diffusions, me semble-t-il, de Crime à Oxford, le dernier Alex de la Iglesia, qui est une coproduction anglo-espagno-française, donc avec Elijah Wood et John Hurt. C'est sur Canal+ ce soir à 20h50. Sinon, concurrence quand même avec sur TPS Star ce soir à 20h40 The Big Nothing, une coproduction anglo-canadienne de J.B. Andrea avec David Schwimmer, Friends, ouais. Simon Pegg, Natasha McElhone et John Polito. Et il paraît que c'est pas mal du tout. 13e rue vous propose un inspecteur Barnaby ce soir de 98 qui s'appelle Mort d'un pantin à 20h40. Sinon sur Ciné, Cinéma, Émotion à 20h40, encore une adaptation de Jane Austen, Emma de Dermoud Lawrence de 97 avec Kate Beckinsale avant qu'elle aille castagner
du lican.
Tu vois, dans un rôle classique, Mark Strong, Samantha Bond. Bref, Emma, c'est sur Ciné Cinéma Émotion ce soir à 20h40. On a demain, eh bien, sur France 2, tu disais le film du dimanche soir sur France 2, eh bien, c'est l'excellent. Ça fait plaisir quand même de temps en temps de les revoir. C'est les vieux James Bond avec à 22h10 demain soir Diamonds Are Forever. Bon, c'est pas le meilleur. C'est pas le meilleur, mais tant qu'il y a Sean Connery dedans, de toute façon, ça va, ça passe.
Oui. Shirley Bassey quand même dans le générique. Merde. Ouais.
Avec Shirley Bassey bien entendu dans le générique, Gilles St. John et Charles Grey dans le rôle de Blofeld. Inspecteur Lewis également sur France 3, hein, demain soir donc à 20h35. L'épisode de demain soir, c'est le dernier chapitre filmé par Sarah Harding. Paris Première vous propose demain à 20h40 le coup Couteau sur la nuque, une coproduction anglo-américaine de Lou Antonio avec Peter Ustinov dans le rôle de l'inspecteur Hercule Poirot, bien sûr, avec Faye Dunaway, avec Faye Dunaway et David Suchet qui allait devenir
le
Hercule Poirot de la télé.
Celui de ITV.
Et également Bill Nighy. Donc c'est à Bill Nighy, à mon avis, il n'y a pas de problème. Il a toujours une tronche.
Bill Nighy qu'on retrouve aussi dans Underworld avec Eddie McKinsey.
Ouais, non, mais il a une tronche à faire le méchant. Donc tu vois le genre, quoi, de toute façon. Sur Cinéma classique également demain soir, Une question de vie ou de mort, un film de Michael Power et Emmerich Pressburger de 46 avec David Niven, qui mentor Raymond Massey, filmé juste après la guerre, où c'est David Niven qui est abatteur et tout, et qui meurt, et donc qui va monter au ciel, et qui va être jugé devant un tribunal céleste. Ah ah, ouais, si, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est intéressant, quoi. Lundi sur Sci-Fi, for Andromeda de John Strickland avec Tom Hardy, Charlie Cox, Kelly Reilly et Jane Asher, une histoire d'extraterrestre. Sur Teva, Dinotopia, ouais, qui est quand même une coproduction anglo-américano-allemande, créée par Marco Brambilla, avec
c'est
Tyrone
Leto. C'est italien, Marco Brambilla, il est italien.
Ah ouais, avec Tyrone Leto, Wentworth Miller avant
Prison Break,
Cathy Carr, David Thewlis et tout, c'est pas mal hein, quand même, c'est sympathique hein, Dinotopia, quoi. Ça vaut le coup, quoi. Mais par contre lundi le gros c'est quand même sur Ciné Cinéma Famille qui vous propose bien une soirée Agatha Christie avec les originaux quand même hein. Attends, il y a à 20h40 Le Crime de l'Orient Express de Sidney Lumet,
oui,
film anglais hein, avec Albert Finet dans le rôle, le rôle titre, l'inspecteur Poirot, Lorraine Bacall, Ingrid Bergman, Martin Balsam, suivi à 22h45 de Mort sur une ligne de Le Nil de John Guillermin en 78 avec Peter Ustinov qui s'approprie le rôle. Et dans Le Mort sur le Nil, il y a également Mia Farrow, entre autres, suivi de, à 1h du matin, Le Miroir se brisa de Guy Hamilton. Ah ah, bah ouais, celui qui a fait le James Bond là. Diamant,
trop fort.
Ça c'est en 80 donc avec Le Miroir se brisa, c'est avec Gilles Taylor et Edward Fox, suivi à 2h45 du matin
encore
de Meurtre au soleil de Guy Hamilton en 81, mais enfin qui est nettement plus dispensable. Et lundi également sur Ciné Cinéma Club, Velvet Goldmine de Todd Haynes avec Jonathan Rhys-Meyer, Evan McGregor, Christian Bale. Haha, rien que le casting et tout. Ah ouais, pourtant. mais le film est vraiment très très bien, très intéressant. Un retour dans le monde de la musique glitter des années 70 en Angleterre, c'est pas mal du tout. Et mercredi, on a également sur Canal+, là c'est un inédit quand même de Nick Broomfield, qui est plus connu pour ses documentaires et là qui réalise un film qui s'appelle Battle for Haditha avec Elliot Ruiz, Yasmin Anani et Andrew McLaren. Ça se passe bien entendu en Irak. Et vendredi, encore deux petites choses. Bonne chose d'ailleurs, avec sur Canal Jimmy Rediff de Prime Suspect, là c'est l'épisode Cadavre Obscur de 95 avec toujours Hélène Mirren bien sûr dans le rôle de Tennyson, il y a Tom Woodward et Stephen Boxer, c'est filmé par Paul Marcus et sur cinéma classique, celui-là il est pas mal aussi du tout, à 20h40 Le Narcisse Noir de Michael Powell et Emmerich Pressburger de 4h47 avec Deborah Kerr, Kathleen Byron et David Farah, Le Narcisse Noir donc qui se passe au Tibet et tout, dans un couvent, enfin c'est un truc assez bizarre quand même, quoi. c'est y a pas d'action du tout quoi. Mais par contre t'as au niveau des couleurs, au niveau des rendus, des plans et tout, un truc esthétique certain, je dirais quoi. C'est assez assez saisissant quand même quoi. Donc c'est donc sur Ciné Cinéma Classique vendredi prochain, Le Narcisse Noir de Michael Powell à 20h40 quoi. Et c'est tout, voilà.
Il y a un AC.
Hein ?
Il y a un AC.
C'est quoi un AC ?
Non, non, d'habitude c'est moi pour AC. Bah t'arrêtes pas de me dire, c'est assez bien foutu.
Ah oui, d'accord, ok.
D'accord, ok. Okay.
Assez étonnant.
Voilà, lui du sport, lui il tasse ses feuilles professionnellement et puis voilà.
Bah nous aussi on peut le faire, attends.
Non, toi tu vas me faire le résumé pour ceux qui ont pris l'émission ouais. Supplément week-end en cours de route, numéro 195 de mémoire.
Oh, bientôt la 200ème. Alors aujourd'hui nous avions en invité spécial Emmanuel Andral, le Thésard en Highlander et en Evangelion. Il faut savoir que vous y retrouverez aussi sur le site les photos prises par Sabrina qui a fait l'électron libre aujourd'hui. Nous avons eu, c'était une émission spéciale autour du manga animé et une émission So British également. Xavier est passé près de la décapitation parce qu'il a dit que Tezuka avait fait le Roi Lion. On a eu...
J'ai dormi même pas 2 heures cette nuit, hein, pour la préparer.
Ah bon d'accord, bon t'es excusé alors. On a eu du cacao cinéma, du cul et des mechas, du petit garçon en slip. Manu m'a noté sur la feuille d'ailleurs s'il y a une adaptation américaine, est-ce qu'il sera en pantalon. On a des personnages sans bouche et aussi des programmes de roast beef.
Nom d'un stop motion, ils ont manqué tout ça. Heureusement, grâce à la diffusion différée, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission et aussi retrouver les chroniques écrites, fouiller dans nos archives, jouer à des quiz stupides. Bientôt vous inscrire au club, laissez vos commentaires, posez vos questions, n'hésitez pas, il suffit d'aller sur le site supplementweekend.fr, ça s'accent ni tiré, supplementweekend.fr. Vous écoutez FM 89.1 MHz, nous sommes en direct et en alternance avec Booster FM et on continue sur www.radio-fm1.net dans le prochain épisode. Il y a une interview.
Oui, une interview de Florent Maudou pour Freak Squill dans le tome 2 est sortie, qu'on chroniquera également la semaine prochaine. Et on aura certainement aussi le film Prédiction avec Nicolas Cage.
Tu prédis le film Prédiction, c'est
tout
pas
à
mal.
Fait.
Se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence, et le retour de JB, toujours sans rien à dire. Voilà, ciao, bye bye.